Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton et Maëlys André, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Bruno Gagnère-Fontanille. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Sémon.
Bonjour.
En début de semaine, la Cour pénale internationale a décidé de remettre en liberté l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ainsi que son ancien bras droit Charles Blé Goudé après leur acquittement d'accusations de crimes contre l'humanité. Rappelons qu'ils étaient en détention depuis plus de 7 ans suite aux violences post-électorales de 2010-2011 et le procès s'était ouvert en 2016. Et même si depuis, la CPI a suspendu cette remise en liberté après un appel du parquet, cette décision signe un nouveau camouflet pour le tribunal de La Haye. Comment comprendre ce nouvel échec de la CPI ? Que nous révèle-t-il des défaillances de cette justice internationale et quelles en seront les conséquences ? Pour évoquer ces questions, nous avons invité Serge Sûr. Bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite de droit public à l'université Panthéon Assas et puis rédacteur en chef de la revue Questions internationales, mais également Thomas Hofnung. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes chef des rubriques politiques internationales pour le site The Conversation et également enseignant à Sciences Po et à l'IRIS. Laurent Gbagbo a quitté la CPI discréditée, c'est la question qu'on va se poser dans quelques instants. Mais d'abord, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Rojava kurde, donc en Syrie. C'est Jérémy André. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, journaliste indépendant. Vous travaillez notamment pour La Croix et Le Point, ancien correspondant à Erbil pendant 2 ans. Je rappelle, décembre dernier, donc, vous êtes en Syrie, dans ces zones tenues par les forces kurdes au nord du pays, dans les environs de Qamishli, mais aussi dans le nord de Raqqa, ou encore à Kobané, à Manbij. Vous êtes resté sur place près de 2 semaines. Vous étiez d'ailleurs sur place quand Donald Trump a annoncé le départ des troupes américaines de Syrie, prenant un peu tout le monde de court, même si c'est vrai, il faut rappeler que c'est un objectif qu'il s'était fixé dès sa campagne. Les forces américaines étaient jusqu'ici alliées au groupe armé kurde dans la lutte contre les djihadistes. Alors que va-t-il advenir désormais de ce Rojava kurde, ce Rojava, cet espace pris en étau entre la Turquie d'un côté et le régime de Damas de l'autre? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous. D'abord, pour justifier, Jérémy André, le retrait des troupes américaines, Donald Trump a expliqué que Daesh avait été en grande partie vaincu. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que vous en avez compris, vous, sur place? Quelle menace représente aujourd'hui l'État islamique dans ces zones kurdes du nord de la Syrie où vous êtes rendu?
Alors, il y a 2 jours, dans une des villes que j'avais visitées, Manbij, il y a eu un attentat contre des soldats américains et des soldats de coalition. Bon, certains disent qu'il y avait même des soldats français, c'est-à-dire des Français qui étaient présents. Donc il y a eu beaucoup de morts, je me souviens plus du bilan définitif, mais je crois qu'on était à 16 morts la dernière fois que j'ai regardé. Ça montre qu'il y a un niveau encore de menace insurrectionnelle de Daesh dans les espaces libérés qui est très élevé. Et par ailleurs, donc c'est pas un sujet que j'ai traité, mais donc tout au sud de cette zone, près de Deir ez-Zor, se trouve en fait une petite poche avec 4-5 villages, ou gros bourgs agricoles qui sont encore tenus par vraiment les dernières redoutes de l'État islamique.
Vous êtes sur place en zone kurde quand Donald Trump annonce le retrait des troupes américaines. Quelles sont les réactions à ce moment-là? Alors, surprise, inquiétude?
Moi, j'étais moi, j'y étais quand Erdogan a lancé sa menace. Donc, je me souviens surtout de ce moment-là en interview. Où je suis avec des responsables qui sont pas kurdes d'ailleurs, mais donc avec des responsables de ces autorités locales, je me souviens qu'on voit les déclarations d'Erdogan sur internet au milieu de l'interview, les gens nous disent c'est pas sérieux, et il arrête pas de faire des menaces, c'est pas sérieux, et même un des interviewés s'est endormi au bout d'un moment. Et je trouvais ça extrêmement significatif, en fait, du fait que les autorités là-bas, nos alliés kurdes, mais aussi des autres communautés, étaient complètement endormis. C'est-à-dire, en fait, ne pensaient pas réellement qu'ils pouvaient être lâchés si tôt et tout de suite.
Et quand Trump annonce le retrait des troupes?
Et donc, moi, je suis parti, en fait, le jour, non pas de l'annonce, mais du coup de fil de Trump avec Erdogan, donc qui est vraiment le vrai jour du lâchage. Ce jour-là, j'étais au point de frontière qui permet de rentrer en fait vers l'Irak. Et déjà, il y avait beaucoup de travailleurs d'ONG qui quittaient suite aux menaces d'Erdogan, mais aussi alertés un petit peu par leurs équipes, en attendant de voir. C'était la période des fêtes. Certains rentraient pour les fêtes, mais ceux que j'ai interrogés me disaient très clairement aussi qu'ils quittaient parce qu'ils sentaient que la situation allait basculer. C'est un sujet qui n'a pas encore beaucoup été évoqué, mais si ce retrait se confirme, c'est un effondrement complet de la réponse humanitaire actuelle en Syrie, qui était énormément basée sur cette zone sous protectorat occidental.
Sauf que visiblement, Jérémy André, au départ, on était vraiment sur un retrait ferme et non négociable, et que depuis, on a l'impression que l'administration américaine est moins encline à lâcher l'allié kurde. Concrètement, qu'est-ce que vous en avez compris? Aujourd'hui, l'administration américaine ambitionne quoi? De trouver un accord, et notamment avec la Turquie, pour garantir la sécurité des milices kurdes, les YPG?
Alors moi, j'ai le plus grand mal, personnellement, à lire ce qui est annoncé, ce qui est dit à la fois sur Twitter, mais aussi donc par des membres de l'administration de Donald Trump. Je pense c'est très contradictoire et je me prononcerai pas sur ce qui est dit. Le fait est quand même que Donald Trump, dans un tweet, a dit qu'il envisageait de créer une safe zone, donc une zone de sécurité. De 20 miles, une trentaine de kilomètres. Et ça, pour moi, ça ouvre à des concessions donc aux demandes turques d'occupation d'une partie du territoire syrien et donc surtout de zones peuplées par des populations kurdes. Pour moi, rien n'est réglé pour l'instant.
Rien n'est réglé, mais comment est-ce qu'on prend cette annonce du côté des Kurdes? Parce qu'effectivement, il y a cette idée qui est défendue par Washington d'une zone de sécurité à peu près 30 kilomètres le long de la frontière, donc dans cette partie nord de la Syrie, qui serait sous contrôle de fait de la Turquie. Que craignent les Kurdes avec cette zone de sécurité, concrètement?
Ils craignent tout simplement que se reproduise ce qui s'est produit, par exemple, donc dans la ville d'Afrin au début de 2018, c'est-à-dire que par une occupation entre l'armée turque et des milices alliées en Syrie qui sont plutôt islamistes, ils craignent que cette occupation occasionne en fait un nettoyage ethnique massif du million et demi de Kurdes qui vivent dans cette zone frontalière.
Essayons justement de comprendre ce qu'il y a derrière ces groupes et la réalité au fond de cette présence turque. Parmi les combattants engagés contre les Kurdes, il y a par exemple Saif Boulad Aboubakr. Vous avez consacré l'un de vos papiers à ce commandant de la division Al-Hamza. Vous dites qu'il incarne bien les ambiguïtés des forces alignées par Erdogan contre les Kurdes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, Jérémy André, qui est cet homme, son parcours et les intérêts qu'il défend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il cherche à faire, lui?
Alors,
et puis ses liens avec Daesh, on verra ensuite.
Un analyste américain qui s'appelle Nicolas Heras a réussi au travers de sources de l'armée syrienne libre, de bras armés de la révolution syrienne, à recomposer un peu le parcours de ce personnage qui est très jeune, qui a 30 ans. Et qui est devenu l'un des commandants d'une des unités les plus médiatisées au sein des forces alliées à la Turquie en Syrie. Et donc, dans ce parcours, c'est le parcours classique dans cette révolution et dans cette guerre civile où il y a énormément de revirements. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a prêté sa main à différents groupes. Et entre autres, donc en 2013, visiblement, à l'État islamique. Donc il vient d'une petite ville qui s'appelle Al-Bab, qui est au nord d'Alep. Alors cet engagement pour l'État islamique, Nicolas Heras le reconnaît lui-même, on peut pas dire qu'il soit très idéologique. C'est pas quelqu'un qui est un djihadiste vraiment très radical, mais c'est plus un opportuniste. Qui d'ailleurs, en fait, a très vite lâché l'État islamique pour rejoindre des groupes armés liés à la Turquie qui ont combattu et chassé l'État islamique de cette ville d'Al-Bab. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui parle beaucoup dans la presse et qui, par exemple, a très durement critiqué les propos d'Emmanuel Macron en soutien aux Kurdes et aux forces démocratiques syriennes, donc l'entité qu'ils ont constitué.
Ouais, donc il faut comprendre que tous ces groupes pro-turcs ne sont pas des groupes djihadistes radicaux et que, au fond, on a affaire là à un ensemble extrêmement hétéroclite. Mais en revanche, vous dites que l'objectif de quasiment tous ces groupes pro-turcs présents dans ce nord syrien, c'est de renverser Bachar el-Assad.
C'est extrêmement important de le rappeler. Effectivement, ce ne sont pas des groupes djihadistes, pour la plupart. Et la priorité numéro un dans l'ensemble de ces groupes, l'ensemble de la structure, ça reste quand même de s'attaquer au régime de Bachar
al-Assad. Ça vous paraît possible aujourd'hui? Ils ont des moyens supérieurs à tous ceux qui ont essayé jusqu'ici?
C'est très difficile d'évaluer leurs forces. Moi, ce que j'ai pu constater sur le terrain, c'est-à-dire en interviewant des gens qui ont vécu dans ces zones d'occupation, et je veux bien préciser que ces gens que j'ai interviewés, je les ai rencontrés hors de tout cadre on va dire politique ou militaire. C'est pas des gens que j'ai rencontrés parce qu'ils m'auraient été fournis, des témoins qui m'auraient été fournis par les Kurdes pour décrédibiliser les Turcs. C'est des civils que j'ai rencontrés, qui sont des civils déplacés. Et ces civils, donc déplacés, on pourrait dire chassés de chez eux par ces milices, ils décrivent surtout un régime de prédation et d'occupation. Donc, même si la priorité politique affichée par tous ces groupes et par la Turquie, ça reste encore donc d'accomplir le but de la révolution, c'est-à-dire renverser Bachar al-Assad, sur place, ils sont plutôt dans un régime de prédation, d'occupation, et même de turquification de cette zone, puisque en fait beaucoup de ces groupes sont turkmènes et les noms kurdes des zones occupées comme Afrin ont été entièrement effacés et remplacés par des noms turcs.
Ouais, vous parlez de persécution, vous avez notamment réalisé un reportage pour Le Point sur la conquête d'Afrin et la manière dont la Turquie et ses alliés ont pillé et revendu, et d'ailleurs pour l'Europe, les récoltes d'huile d'olive issues d'oliveraies qui appartenaient à des milliers de Kurdes qui ont été soit évacués de force de la région, soit qui ont été obligés de casser leur prix pour travailler avec les Turcs. La Turquie avait baptisé cette opération Rameau d'Olivier, mais derrière ce nom qui résonne évidemment comme un message de paix, c'est en fait une opération de conquête, de pillage et de violence à l'endroit des populations kurdes. C'est ce que vous avez constaté sur place.
Moi, je suis étonné par le relatif désintérêt dans les médias pour cette affaire, parce que on a quand même eu donc je pense au bas mot 200 000 personnes qui ont été déplacées de force et pas on va dire dans un contexte de violence qu'ils fuiraient et avec une possibilité de retour sur leur terre. C'est 200 000 personnes qui ont été chassées parce qu'ils sont kurdes et par ailleurs on les a expropriées. Et moi, cette histoire de l'huile d'olive, je la trouvais très parlante parce que, en fait, cette huile d'olive, elle finit en Europe. J'ai pu trouver à Paris des bidons d'huile d'olive, donc qui viennent d'Afrin, visiblement commercialisés en fait depuis 2018, et donc en région parisienne, en Belgique, à Copenhague, ça c'est plein d'endroits. Voilà, il y a ces bidons d'huile d'olive, donc qui viennent directement des stocks pillés à ces familles kurdes. Pour moi, ça interroge vraiment et ça montre quand même que cette guerre civile syrienne et les crimes, on le sait depuis longtemps, mais il faut toujours le rappeler, les crimes qui s'y passent, en fait, ils sont intimement connectés à notre vie quotidienne ici en Europe.
Compte tenu justement de cette menace pour les Kurdes qui vient de la Turquie, est-ce que pour garantir leur sécurité, les Kurdes de Syrie ne pourraient pas être tentés de rentrer en négociation avec le régime syrien, de trouver un accord politique avec le régime de Bachar qui, lui, pourrait en profiter pour reprendre le contrôle de ses territoires? Est-ce que ça vous paraît une hypothèse plausible et est-ce que ces discussions ont d'ores et déjà lieu?
Ces discussions, elles ont d'ores et déjà lieu, elles n'ont jamais été cachées. Alors, il faut... Comment dire? Il faut battre en brèche l'idée que les Kurdes seraient alliés depuis le départ de cette révolution avec Bachar al-Assad contre la révolution. C'est faux. Il y a une alliance, c'est un terme un peu fort. Il y a des, on va dire, des alliances ponctuelles. C'est-à-dire, dans certaines zones, ils ont pu combattre ensemble les mêmes ennemis. Mais il n'y a pas une alliance stratégique. Et de ce fait, ils sont quand même dans une relative hostilité. De toute manière, ce dialogue, il a existé depuis relativement longtemps, donc c'est pas une nouveauté. Après le départ américain, c'est sûr qu'il va jeter les Kurdes dans les bras du régime, c'est-à-dire les pousser à accepter toutes les conditions.
Mais est-ce que globalement, justement, ils vont préférer aller voir le régime syrien, ou est-ce qu'il faut craindre là des divisions, des scissions à l'intérieur même des différents mouvements, des courants kurdes syriens?
La question, elle se pose pas comme ça. Du point de vue des populations civiles, localement, dans chaque administration. J'ai pu le constater à Manbij, par exemple. Je suis allé interviewer donc, on va dire les commères de cette ville, qui sont des civils. Hein, c'est pas des gens, on va dire, d'un certain parti politique kurde, donc le PYD. C'est des civils qui représentent les intérêts de leur ville. Eux, la question se pose même pas. C'est plutôt Bachar que les Turcs. Parce que l'arrivée des Turcs amènerait, ils l'ont vu avec Afrin, au départ d'une telle proportion de la population qu'il n'est pas acceptable. Donc, il vaut mieux la tyrannie du régime, et ils sont très conscients de la violence du régime, parce qu'à Manbij, ils avaient combattu le régime. Mais le problème, il ne se pose pas comme ça. Le problème, il se pose plus, est-ce que le régime
est disposé,
à dialoguer? Est-ce que le régime va en fait pas aussi faire échouer les négociations pour reprendre en découpant à la pièce toute cette zone, c'est-à-dire en fait en négociant individuellement avec chaque région, en rentrant individuellement dans chaque région, donc en négociant avec l'administration de Manbij, l'administration de Raqqa, l'administration de Deir ez-Zor, et donc reprendre tout ça à la pièce et se dire c'est pas très grave si on laisse les Turcs éliminer le cœur du système politique établi donc par les Kurdes, donc à Kobané et dans quelques villes comme Derek, Kamishlo.
Jérémy André, vous avez également réalisé un reportage dans la région d'Assaké sur ces villages chrétiens de la vallée de Kabour, l'église Sainte-Marie de Tel Nasri qui porte encore les stigmates de son dynamitage par Daesh en 2015. Les forces démocrates syriennes, donc cette alliance arabo-kurde soutenue par la coalition internationale, était parvenue à chasser les djihadistes de la région. Et aujourd'hui, ce hameau de Tel Nasri retrouve un petit peu de vie, sauf que les personnes qui reviennent ne sont pas celles qui habitaient là avant l'arrivée des djihadistes, mais ce sont surtout des déplacés kurdes qui ont choisi de s'installer là, avec l'accord des chrétiens, des quelques chrétiens qui restent.
Alors, donc ce village de Tel Nasri, il crée une grande anxiété dans la communauté chrétienne, donc du nord-est de la Syrie, parce que voir des Kurdes venir s'installer dans les maisons vides des chrétiens, qui pour la plupart ont choisi l'exil et vivent donc en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Canada, c'est la peur d'être remplacé donc par les Kurdes dans la région. En fait, comme vous l'avez dit, cet accueil, il a été fait avec l'accord des autorités religieuses et avec l'accord des quelques chrétiens qui sont restés, qui voient un avantage, celui de remettre en état le village, puisque les familles kurdes qui arrivent nettoient le village, nettoient les maisons, rétablissent l'électricité, etc. Moi, je trouve que c'est un très beau sujet parce que il montre à un siècle d'écart deux vagues de déplacés qui ont fui en fait des persécutions dans cette région. Donc ces chrétiens se sont installés ici parce que c'était des Arméniens qui avaient fui donc un massacre au nord de l'Irak dans les années 30. Et là aujourd'hui, ces Kurdes fuient Afrin où la Turquie menace leur population.
Et ce sera ma dernière question. Que pensent ces chrétiens de l'hypothèse justement de négociation avec le régime syrien?
Alors, les chrétiens en Syrie, en particulier la hiérarchie cléricale, est plutôt favorable à l'État syrien. Par contre, il y a des chrétiens qui se sont alliés aux Kurdes et qui, eux, je pense, se posent vraiment des questions de leur avenir dans le cas en fait d'une réintégration du régime de Bachar Assad.
Merci beaucoup, Jérémy André, d'être passé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes journaliste freelance, notamment pour La Croix et Le Point, où on peut retrouver certains des articles qu'on a évoqués ce matin. Je rappelle également que vous êtes ancien correspondant à Erbil. Merci beaucoup.
Merci.
On quitte ce Rojava kurde pour aller du côté de la Côte d'Ivoire et plus généralement pour parler de la CPI. Laurent Gbagbo a quitté la CPI discréditée, c'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Alors qu'ils étaient incarcérés à La Haye depuis 7 ans et que leur procès s'était ouvert en 2016, la Cour pénale internationale a décidé cette semaine de libérer l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son bras droit Charles Blé Goudé.
La Chambre décide à la majorité que le procureur n'a pas établi la charge de la preuve au niveau requis conformément à l'article 66 du statut de Rome. Fait droit à la requête de la défense, tendant à l'acquittement de toutes les charges retenues contre M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, et ordonne la libération immédiate des deux accusés en vertu de l'article 81.
Orders the immediate release of both accused pursuant to article 81.3.
Voilà, malgré l'acquittement et la demande de remise en liberté, Laurent Gbagbo va devoir attendre un petit peu, il va devoir attendre le résultat de l'appel formulé par l'accusation. Alors comment comprendre la décision des juges chargés de conduire l'affaire? Cet acquittement est-il mérité ou est-il le fruit d'une incapacité à démontrer les faits qui leur sont reprochés? N'est-ce pas d'abord le signe de l'échec de la justice internationale? Et d'ailleurs, quel bilan peut-on dresser presque 20 ans après sa création de la Cour pénale internationale? Serge Sûr et Thomas Hoffnung sont nos invités ce matin. Marc Semo, notre partenaire du Monde. Marc, au-delà de ce cas particulier de Laurent Gbagbo, c'est au fond toute la CPI elle-même et son efficacité qui est remise en cause. Elle s'avère incapable, je le disais, d'apporter les preuves de la responsabilité des accusés dans ces violences post-électorales. Mais en réalité, la crise de légitimité, elle va bien au-delà. On se souvient, il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans, ces pays africains qui avaient annoncé leur retrait de la CPI, c'était le Burundi, l'Afrique du Sud, la Gambie. D'ailleurs, on avait fait une émission à cette époque-là, considérant que la CPI s'acharnait sur les responsables africains en particulier. Là, la CPI échoue quand même dans un dossier qui est absolument crucial, qui est essentiel, puisque c'était la première fois qu'on avait quand même un ancien chef d'État. Il y a eu aussi, plus avant, l'acquittement en appel de l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, c'était en juin 2018. Donc la libération de Gbagbo, c'est un nouvel échec qui fragilise encore plus cette justice internationale qui était déjà mal en point, Marc Semo.
Oui, alors on peut aussi voir le bon côté des choses.
Je m'en doutais.
C'est-à-dire que l'acquittement de Laurent Gbagbo et Jean-Paul Blé Goudé montre que les juges font leur travail et n'avélisent pas n'importe quel acte d'accusation. Ça, c'est le côté positif. Évidemment, il y a tout le reste que tu as dit, et cet acquittement arrive notamment après celui, effectivement, de Bemba, mais aussi après celui de 6 personnalités kenyanes, dont le président Kenyatta, pour des violences post-électorales en 2014. Et le problème, au-delà des faiblesses dans les enquêtes, des faiblesses dans le travail du bureau du procureur, c'est ces faiblesses, elles sont consubstantielles. Dès la naissance de la CPI en 2002, 4 ans après le traité de Rome qui avait créé cette cour permanente pour juger les crimes les plus graves, crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité. Donc à la différence des tribunaux ad hoc, type le tribunal pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda, elle avait une compétence limitée ni dans le temps ni dans l'espace. Mais à leur différence aussi, c'est un traité, c'est-à-dire elle n'est compétente que si les crimes ont été commis sur le territoire d'un pays parti au traité ou par des ressortissants d'un pays parti au traité. Sauf s'il y a une saisine de l'ONU, mais dans ce cas-là, il y a un veto. Et c'est ce qu'on a vu avec la Syrie. Par exemple, la CPI est totalement impuissante dans ce qui est aujourd'hui la pire tragédie sur le plan humanitaire dans le vieux monde. Et à cela s'ajoute l'absence de moyens, l'incapacité de mener de longues enquêtes. Alors je me souviens que lors de la création de la CPI, avec Serge Sûr, dans une interview, vous disiez, la CPI, vous craignez qu'elle ne soit finalement le village Potemkin de la justice internationale. C'est-à-dire un leurre qui non seulement aller geler les autres réelles avancées qui se faisaient en termes de justice internationale, notamment la compétence universelle par les juridictions nationales, mais que finalement, ça soit quelque chose totalement enlisé. Et 17 ans après, alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vos craintes de l'époque se sont avérées ou c'est encore pire même que vous ne le pensiez?
Alors on va faire un premier tour de table, Serge Sûr et puis ensuite Thomas Hoff. Donc Serge Sûr.
Je ne dirais pas que c'est pire, mais enfin c'est conforme à ce qui était prévisible. Et il ne fallait pas être grand clerc pour voir que la CPI ne pouvait pas fonctionner. Et l'échec actuel, vous avez tout à fait raison, le fait qu'un accusé soit acquitté n'est pas un échec. C'est une manifestation de la justice, ça c'est tout à fait clair. Mais la CPI n'a évidemment en rien répondu aux espoirs qui étaient mis en elle. Et j'en suis désolé pour la justice pénale internationale, parce que je crois qu'il faut bien distinguer l'idée de justice pénale internationale et la CPI. La CPI est un mauvais instrument pour une bonne cause. Mais on pouvait voir tout de suite que c'était la chronique d'une faillite annoncée. Parce que, en effet, la CPI n'a pas de moyens, n'a pas de moyens d'enquête, ne dispose pas, même si elle avait des moyens, d'enquêteurs formés. Un certain nombre de ces enquêteurs proviennent des ONG. Être enquêteur, c'est un métier. Il y faudrait des policiers, il y faudrait des magistrats. Il n'y en a pas suffisamment. Et elle ne dispose pas non plus de moyens coercitifs. Elle ne peut pas se saisir des accusés. Et dans la mesure où elle ne juge pas par contumace, procédure anglo-saxonne, on ne juge pas en l'absence de l'accusé. Ce qui, à mon sens, est une erreur. Eh bien, dans cette mesure, finalement, la justice se résume à l'accusation. Il n'y a que l'accusation qui compte. Mmh. Et, par exemple, Gbagbo, il a été détenu 7 ans pour rien. Sauf si, évidemment, l'appel inverse le jugement qui a été rendu. Mais vraisemblablement pas, parce que la cour d'appel n'aura pas davantage de moyens à sa disposition, de preuves, d'éléments que n'en ont eu les juges de première instance.
Évidemment, 7 ans, ça paraît extrêmement long. Thomas Hoffnung, est-ce que vous êtes plutôt Marc Semo à voir le verre à moitié plein, ou est-ce que vous êtes plutôt moi-même qui présentais plutôt la chose avec le verre à moitié vide? Cet acquittement et cette libération de Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Je trouve qu'elle est terrible pour la Côte d'Ivoire, parce qu'en fait elle s'ajoute au fait que dans le camp d'Alassane Ouattara, aucun responsable n'a été inquiété pour les violences post-électorales en Côte d'Ivoire, et donc finalement 7 ans après ce conflit, on se retrouve avec l'impunité la plus totale en Côte d'Ivoire. En fait, c'était une forme de pari, quelque part, je pense, d'envoyer Laurent Gbagbo à la CPI. La justice ivoirienne s'était déclarée incompétente et donc avait transmis le bébé, si je puis dire, à la justice internationale. Et donc, 7 ans après, comme l'a dit Serge Sûr, on a envie de dire tout ça pour rien.
C'était un pari ou c'était carrément une instrumentalisation? Parce qu'il faut rappeler un tout petit peu les choses. L'ancien président ivoirien, il a été livré à la CPI par les autorités ivoirienne elle-même, avec le soutien de la France. Et est-ce que, au fond, c'est pas ça aussi le problème? C'est-à-dire que le procès, il était vicié dès le départ, puisque la CPI a finalement été un peu utilisée, voire carrément instrumentalisée par le gouvernement Ouattara, qui l'a utilisée pour éliminer un opposant politique. On peut aussi voir les choses comme ça, Thomas Hoffnung.
Oui, mais aussi par le procureur de la CPI de l'époque, l'Argentin Moreno Campo, qui, je crois, c'est ce qu'on disait à l'époque, c'était avant son départ de la Cour pénale internationale, voulait accrocher en quelque sorte à son tableau de chasse un gros poisson. En l'occurrence, vous l'avez dit tout à l'heure, pour la première fois, c'était un ancien président qui devait être jugé devant la justice internationale. Donc, il y a une convergence d'intérêts à ce moment-là, en 2011, je pense. Il y a la justice internationale, donc Ocampo, qui réclamait Gbagbo. Alassane Ouattara, le nouveau régime qui venait de se mettre en place, qui s'est dit, comme ça, on se débarrasse d'un gros souci, si je puis dire, parce qu'il faut se souvenir que Gbagbo était détenu dans le nord de la Côte d'Ivoire dans des conditions assez dramatiques. Sa santé était même sujette à caution. Et puis, vous l'avez dit aussi, la France aussi, quelque part, s'est dit, ça va permettre de stabiliser la Côte d'Ivoire.
Qui avait pris fait et cause pour Alassane Ouattara. Marc Semo.
Alors, justement, est-ce qu'un des gros problèmes de la CPI, compte tenu de la faiblesse de ses moyens, de ses échecs, c'est pas cette politique du coup d'éclat qu'avait mené Luis Moreno Ocampo? C'est-à-dire, il y avait eu effectivement ce que tu disais sur Gbagbo, mais il y avait eu aussi le mandat d'arrêt, les deux mandats d'arrêt, pour génocide et pour crime contre l'humanité, à l'encontre du président soudanais Omar el-Béchir. Alors, oui, pourquoi pas? Mais l'effet de retour de manivelle a été terrible. C'est-à-dire, le président soudanais continue à se promener, il va au sommet de l'Organisation de la Conférence islamique, il va au sommet de l'Union africaine. C'est un espèce de désaveu flagrant de la Cour pénale internationale. Et finalement, compte tenu de toutes ces limites, est-ce qu'il n'y a pas une erreur des procureurs qui s'y sont succédés? C'est-à-dire qu'à la différence de Louise Arbour, qui était la procureure à une époque du tribunal pénal sur l'ex-Yougoslavie, qui avait compris qu'il fallait se situer au point le plus favorable du parallélogramme des forces, c'est-à-dire ne pas faire un pas de trop, type par exemple inculper 3 collaborateurs directs d'Omar el-Béchir, ce qui permettait d'avoir une pression sur Omar el-Béchir, voire même un jour de les obtenir. Est-ce qu'il n'y a pas eu finalement cette politique du coup d'éclat qui a amené la CPI dans l'impasse?
Quelle responsabilité pour Moreno Ocampo, Serge Sûr, qui était l'ancien procureur général de la CPI avant que ce soit Fatou Bensouda?
Plus généralement, moi je dirais que le procureur dispose de trop de pouvoir. Et notamment, il définit trop librement l'incrimination et le chef d'incrimination. Et en l'occurrence, reprocher à Gbagbo des crimes contre l'humanité, ça paraissait pratiquement impossible à prouver. On aurait pu mieux le saisir par des incriminations plus restreintes. Et je ferai une distinction d'ailleurs entre le sort de Gbagbo et celui de Charles Blé Goudé. parce que Charles Blégoudet était en quelque sorte l'homme de main. Et c'est lui qui était le plus vulnérable. Et dans une certaine mesure, il a été recouvert par l'ombre de Gbagbo, et il a bénéficié de cet acquittement qui intervient comme une espèce de conséquence du premier. Lui, à mon avis, on aurait pu trouver des preuves pour l'incriminer plus sérieusement, mais pas de crime contre l'humanité.
Oui, je crois que c'est Laurent Gbagbo, ce qu'a essayé de démontrer l'accusation, c'est qu'il y avait un plan commun. Un plan commun pour s'en prendre aux civils qui soutenaient Alassane Ouattara pour terroriser la population et la soumettre. C'est pour ça que je parlais de Paris, parce que je pense que quand Laurent Gbagbo a été inculpé, on n'avait pas ces éléments-là, et visiblement l'accusation n'a pas réussi à les trouver. Et je suis assez d'accord avec Marc Sémo. Je pense que si la justice internationale avait eu dans son viseur des proches de Laurent Gbagbo qui étaient vraiment ses hommes de main, vous l'avez dit, Charles Blégoudet, bon, il a bénéficié de tout ce qui s'est passé à La Haye, mais il y avait aussi des responsables de la défense ou des armées qui étaient sans doute ceux qui étaient les opérationnels. Et eux, on aurait pu peut-être les transférer à La Haye et ensuite instruire le dossier et éventuellement remonter jusqu'à Laurent Gbagbo. Mais on a peut-être commencé à l'envers, on a commencé trop haut et tout a fini par s'effondrer.
Est-ce que vous diriez, Serge Sûr, que l'arrivée de Fatou Bensouda, qui était l'adjointe d'Ocampo pendant des années, avant de le remplacer au poste de procureur général, est-ce que son arrivée a changé la manière de conduire l'enquête? Et de façon plus générale, est-ce qu'elle a essayé de, je mets des guillemets, dépolitiser un peu la CPI? Est-ce qu'elle a essayé de rompre avec cette image d'un tribunal soupçonné à tort ou à raison d'ingérence, de néocolonialisme, etc.? Est-ce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour ça?
Alors, simplement, c'est sa personnalité même. Comme c'est une Africaine, ça donne l'image d'une justice qui peut être enracinée, en quelque sorte, dans ce continent. Mais pour le reste, je crois qu'il n'y a pas de différence significative.
Elle s'est quand même intéressée à des dossiers non africains, la Géorgie, l'Afghanistan, la Palestine.
Oui, mais ils ne progressent pas. Ça, c'est de la communication.
C'est de la communication.
Regardez ce qui se passe pour la Birmanie, pour la Syrie. En réalité, on a des communiqués, mais il ne se passe rien.
Maximo.
Oui, alors on en revient finalement à la question du traité lui-même. C'est-à-dire, d'abord, la CPI a fait beaucoup d'Afrique, parce que les pays africains avaient, pour beaucoup d'entre eux, ratifié le traité. Donc la CPI était compétente naturellement, ce qui facilitait les choses. Et donc on est rentré dans quelque chose qui fait que, est-ce que c'est pas à la base, cette faille fondamentale du traité, qui fait que la CPI, de fait, ne pourra pas marcher. Et l'exemple de la Syrie est quand même accablant. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a quand même ces massacres, avec des tonnes de preuves, etc. Et la CPI ne peut rien faire, même pas dire qu'elle pourrait être compétente.
Non, il faut dire que la CPI a été voulue par les ONG. Et c'est une concession, en quelque sorte, que les États ont faite aux ONG. Mais les ONG ne peuvent pas, bien sûr, on peut respecter la pureté de leurs intentions. Ils ont voulu créer une espèce d'ange pur, d'ange radieux, dans la fosse aux lions. Eh bien, le résultat, c'est que la CPI est tombée dans la fosse aux lions. Et elle a peu de chances d'en sortir vivante.
Thomas Hoffnung. Et puis peut-être qu'on pourrait élargir un tout petit peu, Thomas Hoffnung, et je vous laisse poursuivre, mais tu disais, Marc Sémo, qu'il y avait effectivement cette défaillance du côté de la CPI, cette impossibilité de poursuivre Bachar el-Assad, mais au fond, c'est quelque chose qui concerne plus largement le multilatéralisme de façon générale. Au fond, c'est aussi ce qu'on voit avec l'ONU, parce que tu le disais, Bachar el-Assad, effectivement, la Syrie n'a pas signé le statut de Rome, mais si le Conseil de sécurité avait décidé de poursuivre et qu'il n'y avait pas eu de veto, alors on aurait pu poursuivre Bachar el-Assad, sauf qu'effectivement, il y a forcément veto du Conseil de sécurité, enfin, la Russie et la Chine poseraient leur veto, et donc c'est plus global que ça en réalité. Non. Serge Sûr.
Veto ou pas, à mon sens, ça ne change rien, parce que vous avez deux situations dans lesquelles la CPI a été saisie par le Conseil de sécurité, c'est le Soudan, le Darfour, et la Libye. Et il ne s'est rien passé. La CPI a envoyé des enquêteurs en Libye, ils ont été arrêtés, et pour les libérer, il a fallu que l'administration de la CPI fasse des excuses à la Libye. Alors, vous voyez un petit peu, en réalité, la CPI, dès le début, s'est méfiée du Conseil de sécurité. Les ONG ne voulaient pas que le Conseil de sécurité intervienne dans cette affaire. Il a fallu leur imposer. Mais le Conseil de sécurité, il considère que c'est un instrument de défausse. Quand il ne veut pas agir, il saisit la CPI. Et comme ça, il s'en lave les mains, c'est plus notre affaire. Il n'a pas du tout l'intention d'aider la CPI. Il a l'intention simplement de se défaire de la question. C'est ce qui s'est passé en Libye. Lorsqu'elle a pris une véritable gravité, après avoir saisi la CPI, il y a eu une intervention armée. Et on a laissé de côté la CPI. Et elle n'a pas, ensuite de quoi? Alors il y a toujours des communiqués aujourd'hui, on essaie de mettre en cause un certain nombre d'autres personnes, mais en réalité il ne se passe rien.
Thomas Hoffnung, puis Marc Semo. Thomas Hoffnung.
Non, il y a un sentiment de gâchis par rapport au continent africain, parce que comme l'a dit Marc Semo, énormément d'États africains ont adhéré, ont soutenu la justice internationale à travers la Cour pénale internationale. Et Serge Sur l'a rappelé. Enfin, c'est vrai, quand on regarde le détail des affaires qui sont instruites par la Cour pénale internationale, j'ai regardé avant de venir, il y a ce qu'on appelle les situations sous enquête. Vous avez l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Darfour, donc la Centrafrique, le Mali. Et au milieu de tout ça, la Géorgie, récemment, qui a fait son apparition récemment. Et après, il y a des examens préliminaires où il y a d'autres pays hors du continent africain. Mais donc, les Africains avaient beaucoup soutenu vraiment la Cour pénale internationale. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un retour de manivelle, il y a un retournement, un sentiment que cette Cour est devenue anti-africaine, peut-être parce qu'il y a un effet d'aubaine et qu'il y a des affaires qui sont plus faciles à juger, d'une certaine manière.
Elle est pas anti-africaine. Comme les pays africains avaient ratifié, elle est compétente pour les pays africains. Mais le vrai problème... Pour nuancer peut-être ce que dit Serge Sur, alors c'est une cour effectivement qui a été rêvée par les ONG, mais aussi qui a été verrouillée par les États. C'est-à-dire avec des exceptions, avec le fait par exemple qu'il y a certains États qui ne peuvent pas être poursuivis pour crimes de guerre, dont je crois
c'est
la France.
C'est fini. Non, maintenant, c'est voilà, une réserve pour 7 ans.
Pour 7 ans, voilà. Mais c'était quand même très révélateur. C'est-à-dire, bon, la France avait peu de chances d'être accusée de génocide ou de crimes contre l'humanité, mais les crimes de guerre, ça peut arriver. Donc ça a été quand même quelque chose avec donc, ce double verrouillage, le rêve des ONG d'un côté et les États de l'autre. Mais si on veut être optimiste, on peut dire aussi que, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, qui dépend du Conseil de l'Europe, pas de l'Union européenne, qui finalement est une des choses qui a beaucoup fait bouger les choses en Europe. Au début, personne n'y croyait. Elle a mis des années avant de trouver son rythme de croisière, des années avant de commencer à rentrer dans des affaires significatives. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une des rares choses qui, parfois, met en échec les Russes ou les Turcs sur des atrocités ou des atteintes aux droits de l'homme.
Serge Sur.
Oui, tout à fait. Mais la CEDH, c'est tout de même quelque chose de tout à fait différent. Ça n'est pas dans l'ordre pénal. Et elle intervient face à des États qui ont des systèmes juridiques organisés, qui en général ont déjà un système interne de protection des droits de l'homme, et elle intervient en temps de paix. Donc nous sommes dans des situations qui ne sont pas véritablement comparables. Alors, pour ce qui est du désir de protection des États, ça peut se comprendre dans la mesure où les pays qui étaient sensibles aux risques qu'ils couraient sont des pays qui recourent aux opérations extérieures, notamment aux opérations du maintien de la paix. Et leur crainte était que finalement ce soit les casques bleus qui se trouvent accusés de crimes de guerre, et tandis que les milices et les autres combattants échapperaient.
Allez, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. Le vendredi, on sélectionne un dessin en fonction de notre sujet du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Et alors le dessin de ce matin nous vient de Côte d'Ivoire.
Exactement.
Évidemment.
Il est signé Serraillé, Jean-Kévin Serraillé Zagbaï de son nom complet. Un dessinateur de presse ivoirien qui travaille pour Gbiche. Gbiche, c'est un journal satirique fondé en 99 en Côte d'Ivoire. Il tire son nom d'une onomatopée, le son de celui qui vient de prendre un coup. Gbiche, c'est d'ailleurs son slogan, le journal d'humour et de bande dessinée qui frappe fort. Alors dans ce dessin qui vient de paraître, on y voit un Laurent Gbagbo triomphant. Il vient de recouvrer sa liberté, une liberté jusqu'ici entravée par de lourdes chaînes à chacun de ses poignets, reliées à deux énormes boulets, des boulets sur lesquels il est écrit « Cour CPI, Cour pénale internationale », cour devant laquelle Laurent Gbagbo comparaissait et qui vient donc de prononcer son acquittement. Mais dans ce dessin, c'est comme si Gbagbo se libérait lui-même, comme s'il ne s'agissait pas d'une décision de justice, mais de sa seule volonté, de sa seule force. Les deux poings serrés dans un geste de victoire, clac, il brise ses chaînes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un dessin qui est plutôt à son avantage. Malgré sa tenue de bagnard façon Joe Dalton, pantalon et débardeur à rayures, malgré les 7 années passées en prison, malgré ses 74 ans, l'ancien président apparaît ici plus combatif que jamais. Serraillé lui a donné un corps d'athlète et un sourire de jeune loup prêt à en découdre, voire qui sait, prêt à repartir à la conquête du pouvoir. C'est en tout cas la question que tout le monde se pose en Côte d'Ivoire, où les prochaines élections présidentielles doivent se tenir en 2020. Alors certes, Laurent Gbagbo est encore sous le coup de poursuites judiciaires de la part de la justice ivoirienne, mais cela ne devrait pas l'empêcher de rentrer au pays. La décision lui appartient, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement actuel, dirigé par son ancien adversaire Alassane Ouattara. Et du côté de la population, les réactions sont partagées. Pour les victimes de la crise électorale de 2010-2011, la pilule sera difficile à avaler, remarquait cette semaine le journaliste Venance Conan dans le journal Fraternité Matin. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont encore nombreux, ces partisans. Des scènes de liesse et des explosions de joie ont éclaté cette semaine dans plusieurs villes du pays à l'annonce de l'acquittement. Enfin la libération, cette fois nous avons notre victoire, rapporte encore le journal L'Infodrome. Gbagbo triomphant, mais Gbagbo jusqu'à nouvel ordre, encore en prison.
Merci beaucoup Mélanie Chalandon, je voudrais vous faire réagir sur ce dessin et peut-être vous en particulier Thomas Hoffnung, parce que Mélanie mettait en avant cette question de savoir quel serait l'avenir politique de Laurent Gbagbo. Elle soulignait qu'effectivement il y a eu des scènes de liesse en Côte d'Ivoire, mais il y a aussi eu des scènes de violence, notamment cette nuit, des partisans pour le coup de Alassane Ouattara. Vous avez écrit un livre, Thomas Hoffnung, justement sur cette crise ivoirienne, la crise ivoirienne de Félix Houphouët-Boigny à la chute de Laurent Gbagbo. Si je vous demande ce que vous voyez, vous, comme avenir politique à Laurent Gbagbo aujourd'hui, il va rentrer au pays, il va être candidat pour l'élection présidentielle de 2020 et il peut l'emporter?
Il va rentrer au pays, je pense que c'est une question de semaines, voire de mois. Dans un premier temps, il va séjourner en Belgique, parce que je crois qu'il ne peut pas trop s'éloigner au tout début de la Cour pénale internationale, qui, si éventuellement, elle veut le réintégrer.
Enfin, l'intention, c'est de revenir. Hein. Simone Gbagbo, sa femme, l'a dit très clairement.
Oui, et ensuite, oui, je pense que, de toute façon, même à distance, c'est ça qu'il faut comprendre, même depuis sa prison de Scheveningen, près de La Haye, il tirait encore les fils de son parti, qui s'appelle le Front Populaire Ivoirien, qui est un des principaux partis sur la scène politique ivoirienne.
Oui, mais il avait officiellement lâché la tête du parti.
Voilà, mais en fait, il a empêché une véritable rénovation. Il y avait d'autres responsables qui ont voulu prendre la tête de ce parti et rompre un peu avec les années Gbagbo, les années de cette crise ivoirienne. Et en fait, les partisans de Laurent Gbagbo, donc en concertation avec l'ancien président depuis sa cellule, ont bloqué cette rénovation du parti. Donc en fait, toutes les conditions sont réunies, à moins que le régime d'Alassane Ouattara barre la route de Laurent Gbagbo. Mais je crois que ça va être compliqué, parce qu'à partir du moment où elle avait remis Laurent Gbagbo à la justice internationale et que celle-ci la quitte, elle va avoir du mal, la justice ivoirienne, à dire ben non, c'est nous qui allons le juger maintenant.
Et il peut l'emporter ? Sur l'élection de 2020 ?
Alors, si vous voulez, depuis la disparition de celui qu'on appelle le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, au début des années 90, il y a trois hommes qui animent cette scène politique. Et ces trois hommes qui sont aujourd'hui tous septuagénaires, même Henri Conan Bédier, qui est même octogénaire, sont toujours là. Et en quelque sorte, on assiste à une sorte de danse de ballet à trois responsables, Laurent Gbagbo, donc Alassane Ouattara et Henri Conan Bédier. Et il y en a un dans ces trois qui se dit qu'aujourd'hui c'est son tour, enfin en 2020, c'est Henri Conan Bédier. C'est le plus âgé des trois, c'est celui qui avait succédé au Houphouët-Boigny et qui a été victime du premier coup d'État en Côte d'Ivoire en 99. Et donc après il y a eu Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Conan Bédier se dit aujourd'hui c'est moi qui suis au centre du jeu et je vais faire une alliance peut-être avec Laurent Gbagbo, qui était un de ses principaux adversaires il y a encore quelques années. Je vais faire alliance avec Gbagbo contre Ouattara. Donc tourne en permanence et Gbagbo donc peut être aussi là dans le rôle du faiseur de roi à son retour d'Abidjan.
D'ailleurs cette valse à trois, c'était le sujet d'un autre dessin qu'on n'a pas sélectionné là aujourd'hui, mais
un dessin de Glaise, dessinateur franco-burkinabé. Oui.
Serge Sûr, sur ce dessin, réaction.
Eh bien, je pense tout de même qu'il surestime la puissance de Gbagbo. Je suis tout à fait d'accord qu'il peut être faiseur de roi, mais roi lui-même, ce serait très surprenant. Et le risque, évidemment, pour la Côte d'Ivoire, c'est que on débouche sur des atteintes à la paix civile, qui tout de même, globalement, règne depuis son départ, depuis son incrimination.
Et ça nous ramène à ce qu'on disait au début sur l'impunité, sur la question de la justice.
Oui, oui.
C'est qu'aucun responsable n'a été finalement condamné, soit par la justice internationale, soit par la justice locale. Enfin, il y a eu une loi d'amnistie qui a été adoptée par Alassane Ouattara, qui a permis la libération de Simone Gbagbo. Donc on revient à la case départ.
Oui, mais l'un des avantages de sa présence à La Haye était qu'il libérait tout de même le paysage ivoirien d'une lourde hypothèque. et son retour peut recréer une situation de tension. Et au fond, c'était une mesure d'ordre public que de l'éloigner, parce que la justice ivoirienne aurait parfaitement pu le juger. Et elle aurait même dû le faire normalement, parce que la compétence de la Cour pénale internationale n'est que subsidiaire. Elle ne s'exerce qu'à défaut de la compétence nationale. En réalité, c'était un choix politique de remettre Gbagbo à la Cour pénale internationale. La justice ivoirienne aurait parfaitement pu le faire, mais ça aurait probablement entraîné des graves
troubles. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi la dimension sécuritaire qu'il ne faut pas complètement oublier. Alors, on imagine qu'un procès de Gbagbo en Côte d'Ivoire,
c'était très difficile.
C'était déchaînement de violence à la clé.
C'est pourquoi il ne faut jamais oublier que le rôle de la justice, c'est l'ordre public.
Juste un mot par rapport à la question des atteintes à la sécurité publique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les partisans de Laurent Gbagbo, 8 ans après l'élection de 2010, sont toujours persuadés que leur champion a été volé et que c'est lui qui aurait dû gagner l'élection.
Ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel, d'ailleurs.
Oui, le Conseil constitutionnel avait été à la main de Laurent Gbagbo. Et en fait, après, il y a eu une contre-validation par les Nations Unies qui a donné à Hassan Ouattara vainqueur. L'Union africaine aussi, il faut le rappeler, quand même, a validé aussi l'élection de Ouattara. Mais donc, il y a toujours ce sentiment que Gbagbo a été volé, et donc il y a une soif de revanche, mais qui existe d'ailleurs aussi chez les partisans de Henri Conan Bédier. Donc ça va compliquer la donne, sachant que du côté de Ouattara, on n'entend pas lâcher le pouvoir comme ça.
Ça, je suis sûr.
Oui, et c'est d'ailleurs un problème juridique intéressant, parce que d'une certaine façon, le droit international a été supérieur à la constitution ivoirienne. Et normalement, le droit international n'est jamais supérieur à une constitution. Donc il y avait là quelque chose que les partisans de Laurent Gbagbo ont pu ressentir comme une profonde injustice.
Et j'indique pour nos auditeurs que l'on met sur le compte, le fil Twitter de Culture Monde, le
sur
dessin.
Sur le site et le fil Twitter, on peut retrouver le dessin.
Mais pour poursuivre un petit peu, et puis peut-être pour élargir, aller au-delà du cas ivoirien, on voit les difficultés qu'il y a aujourd'hui, qui demeurent dans nombre de pays en Afrique, à organiser des processus électoraux fiables, démocratiques, équitables. On a vu un exemple très récemment avec la RDC, où Joseph Kabila a mis quasiment 2 ans pour accepter d'organiser ses élections. Le scrutin, finalement, s'est organisé. On a vu la victoire d'un Étienne Tshisekedi, mais dont on a bien compris qu'en réalité, il n'était pas forcément le résultat de ce qu'il y avait dans les urnes, mais plus le résultat d'un pacte avec Joseph Kabila. Alors, justement, pour en revenir à la CPI, dans quelle mesure est-ce que la fragilisation de cette CPI qu'on décrit depuis le début de cette émission, elle pourrait ralentir les régimes africains sur le chemin de la démocratie? Est-ce que les chefs d'État qui ont envie de se maintenir au pouvoir n'auraient pas encore plus envie maintenant qu'ils savent que, de toute façon, la CPI ne peuvent quasiment rien pour eux?
Moi, c'est une bonne solution, ça serait la régionalisation de la justice internationale pénale. Et qu'il y ait des juridictions.
Une cour pénale africaine.
Une cour pénale africaine. Je pense que ça serait beaucoup plus efficace. Au fond, il y a un procès qui a bien réussi, c'est celui de Issa Labré. Et il a été conduit, non pas par une juridiction internationale au sens de la CPI, mais par une juridiction ad hoc, qui était avant tout de droit sénégalais, mais qui bénéficiait tout de même du soutien de l'Union africaine. Et là, on voit qu'il y a un ancien dirigeant. Je crois que c'est un modèle dont on pourrait s'inspirer pour l'Afrique, parce qu'il y a tout de même en Afrique aujourd'hui des forces démocratiques puissantes. Il y a tout de même des mouvements de fond qui veulent qu'il y ait une démocratie réelle. Et je crois qu'on peut faire fond sur eux pour développer ce type de solution.
Thomas Hofnung, ça vous semble être le bon modèle? Il faut oublier la Cour pénale internationale et imaginer des cours africaines?
Oui, je pense que les deux sont complémentaires, mais je suis d'accord avec Serge Lesur. C'est vrai que l'exemple du jugement de Hissène Habré était un succès, et ça permettrait d'éviter cette accusation récurrente de justice néocoloniale, de rapprocher donc la justice des justiciables. Après, sur la question que vous posiez sur l'effet dissuasif ou pas de la Cour pénale internationale, c'est vrai que avec l'acquittement de Laurent Gbagbo, ça va être plus difficile d'expliquer à ceux qui seraient tentés de commettre l'irréparable, qu'il risque de s'exposer à des poursuites par la suite.
Marc Sémo. Bon,
juste une remarque. Effectivement, le problème de fond, c'est que la CPI, c'est une justice hors sol. Elle a tous les défauts des tribunaux spéciaux ad hoc, sans aucun de leurs avantages. Et en plus, une justice hors sol, par définition, n'a pas la même fonction qu'Antarctique. Donc, effectivement, je pense que la régionalisation ou les tribunaux particuliers, il y a aussi celui sur le Cambodge, malgré les
défauts,
etc.
Tout à fait.
Alors là, sous l'égide de l'ONU, fonctionne.
Et alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette CPI? Elle va tout simplement mourir de sa propre mort. Je rappelais tout à l'heure qu'effectivement, en 2016, non mais vous vous souvenez, 2016, on vous avait invité à l'époque, Serge Sur, à ce moment où l'Afrique du Sud, la Gambie, et je crois le Burundi, avaient décidé de se retirer du statut de Rome. Et on s'était demandé, est-ce qu'il va y avoir un effet domino? Est-ce que c'est ça qui va se passer? C'est-à-dire que, petit à petit, les pays africains vont quitter ce statut de Rome, donc vont échapper à cette Cour pénale internationale, et finalement, il ne restera plus rien. Ça sera une coquille vide à la fin. C'est ça.
Sauf cataclysme, les organisations internationales ne disparaissent pas. Elles s'étiolent, elles s'amenuisent, mais elles subsistent. Pour que la SDN disparaisse, alors qu'elle ne servait manifestement plus à rien, il a fallu la Deuxième Guerre mondiale. Mais justement, la Deuxième Guerre mondiale a permis la résurrection de la SDN avec l'ONU, qui est beaucoup plus puissant, beaucoup mieux outillé que la SDN, et qui d'ailleurs fonctionne et rend des services indispensables. Donc, le plus probable, si la situation reste ce qu'elle est, c'est que la Cour pénale, les États s'en désintéressent de plus en plus et qu'ils la financent de moins en moins. Et donc, elle deviendra une sorte de naine blanche qui sera vouée à une survie plus ou moins artificielle, mais elle ne disparaîtra pas. Il y a une bureaucratie. Cette bureaucratie n'a qu'une idée, c'est de se perpétuer. Et donc, il y aura toujours... Mais je crois que pour que l'idée de justice pénale internationale, ou de justice internationale pénale, ce qui serait plus juste d'ailleurs, subsiste et prospère, c'est qu'il faut trouver des instruments qui soient mieux adaptés. Mmh. Et faire fond sur l'échec de la CPI pour en tirer les conséquences et créer une ou des juridictions, et je suis tout à fait d'accord avec l'idée de M. Hoffnung de complémentarité, c'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait une justice pénale universelle, mais elle devrait être complémentaire, par exemple en appel ou en cassation, de juridictions régionales.
Thomas Hoffnung, ce sera le mot de la fin, on arrive au terme de l'émission.
Après l'acquittement de Laurent Gbagbo, je pense qu'il y a une page peut-être qui va se tourner, c'est d'une justice internationale un peu spectaculaire qui s'attaque d'anciens présidents. On vous avait parlé de l'échec de Jean-Pierre Bemba en RDC qui était vice-président. Il y a Kenyatta, le président kenyan aussi, qui a été blanchi. Donc peut-être qu'elle continue son œuvre, puisque c'est vrai qu'il y a des chefs de milice, ougandais, congolais, qui sont... maintenant, il y a un chef de milice centrafricain aussi qui a été transféré à la CPI. Donc ces gens-là vont être jugés. Et ça, c'est bien. Et ça, il faut soutenir absolument ce processus, que les chefs de milice locaux, même s'ils sont petits, qu'ils sachent qu'un jour, ils devront peut-être répondre de leurs actes devant la justice. Justice internationale.
Vous voulez réagir à ça, Serge?
Oui, je voulais dire, en effet, c'est très utile que ces chefs de milice et cadres intermédiaires puissent être jugés, mais à la limite, ils peuvent le souhaiter. Parce que souvent, le choix, c'est d'être purement et simplement lynché, décapité, exécuté, et donc aller à la haie, c'est une garantie de survie.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Marc Semo, notre partenaire du Monde, Serge Sur, Thomas Hoffnung, je redis Thomas Hoffnung, la crise ivoirienne de Félix Houphouët-Boigny à la chute de Laurent Gbagbo, c'était quand même notre sujet du jour, mais aussi très récemment, nos chers espions en Afrique, c'était chez Fayard. Merci beaucoup à tous les trois. On se quitte avec Alpha Blondy et son brigadier Sabari. Il est 11h53, passé de quelques secondes maintenant. L'heure de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Les électeurs ne s'intéressent guère aux élections au Parlement européen. Il vivait tranquillement sa vie, co-géré par ses deux forces. Il en sera tout autrement après les élections de mai. Que peut-il se produire, Brice?
L'ancienne formule, celle qui consistait à gouverner au centre en s'appuyant sur la grande coalition formée par les deux principales forces politiques du Parlement européen, à savoir le PPE de centre-droit et le S&D de centre-gauche, qui contrôlent aujourd'hui 54% des 751 sièges du Parlement européen, cette formule, elle a vécu. On l'a accusée d'immobilisme, mais elle a assuré une grande stabilité aux travaux de notre Europarlement. Modérés et sociaux-démocrates divergeaient sur des détails, mais ils étaient d'accord sur l'essentiel. Et à toutes les questions, la réponse était inspirée par l'idée « davantage d'Europe, plus de politique commune et tout ira mieux ». Ils avaient marginalisé les eurodéputés radicaux et les maintenaient à l'écart des vraies responsabilités. Tout ça est amené à changer. Le S&D va probablement perdre plusieurs dizaines de sièges. Les partis de gauche sont en déroute partout en Europe. Quant au PPE, il est au bord de l'éclatement. Il est divisé en profondeur par le cas Orban. Les plus centristes voulaient l'expulser, les plus droitiers sont tentés de le suivre dans son espèce de révolution conservatrice pour contrer la menace populiste. Oui, mais tandis que les modérés vont se diviser, souverainistes, populistes, xénophobes de divers calibres, aujourd'hui éclatés en plusieurs groupes politiques rivaux, pourraient bien se retrouver sous une bannière commune afin de gagner du pouvoir. Du coup, ce seront les groupes libéraux et écologistes qui seront amenés à jouer un rôle beaucoup plus important dans notre futur Parlement. En outre, il va falloir compter avec un certain nombre de nouveaux venus, comme les Ciudadanos espagnols et les Cinque Stelle italiens. Avec eux, ce ne sera pas trop difficile, mais des majorités peuvent aussi être trouvées sur certains sujets, avec des partis comme la France Insoumise et Podemos. Une chose est sûre, aucune majorité ne pourra se dégager sans de multiples négociations. Le temps des majorités automatiques est terminé. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour la démocratie européenne.
Mais si cet éclatement de la scène politique européenne faisait le jeu des populistes, Brice ?
Le Parlement européen pourrait bien se retrouver sous le contrôle de nationalistes pleins de confiance en soi, de conservateurs ambigus et de sociodémocrates radicalisés. Une possibilité qui paraît également effrayante. Voilà ce qu'écrit Frédéric Erikson dans The Spectator. Pourquoi ? Parce que les eurodéputés populistes faisaient beaucoup de tapage au Parlement européen, mais il n'y avait guère de pouvoir. S'ils se confirment qu'ils feront leur entrée en force en mai, ils affecteront dans des proportions qu'il est difficile d'évaluer d'avance les décisions de l'UE sur quantité de sujets. En tout cas, ils ne pourront pas modifier les institutions ni leurs règles de fonctionnement, puisque celles-ci sont gravées dans le marbre des traités, mais ils peuvent les métamorphoser de l'intérieur. On peut d'ores et déjà s'attendre à ce que la nomination de la prochaine Commission européenne se révèle délicate. Par exemple, si des gouvernements populistes insistent sur les noms de personnalités de leur choix et qu'un nombre suffisant d'eurodéputés les récuse ces choix. Et même si ces gouvernements se résignaient, avoir confié à leur commissaire un portefeuille d'importance secondaire, ce qui est probable, on peut s'attendre à ce que ces commissaires populistes fassent des éclats au sein de la future commission, puisque par tradition, les décisions importantes au sein de cette commission sont adoptées de manière consensuelle. En outre, les commissaires européens sont censés oublier, dans une certaine mesure, les intérêts nationaux de leur pays d'origine pour se consacrer au service de l'intérêt général de l'Union européenne. Il y a peu de chances pour que des commissaires choisis par des gouvernements nationalistes acceptent cette règle.
Et alors, quelle solution ?
Selon les auteurs de la note de la Fondation Carnegie que j'ai beaucoup utilisée pour cette série de chroniques, il faut prévenir les électeurs que, oui, cette fois, c'est différent. Les enjeux sont considérables. Il ne faut pas laisser les partis extrémistes donner le ton. Ils misent en effet sur la création d'un climat de peur et de tension. Le moyen d'y parvenir pour eux serait de laisser la question de l'immigration supplanter toutes les autres. Il faut mobiliser la société civile, disent-ils encore, et surtout, citation, « pour parvenir à définir un socle commun, les politiciens libéraux doivent jouer carte sur table et dire clairement quelle sorte d'Europe ils veulent vraiment, et non plus se contenter de parler en termes de pro et d'anti-européens ». Fin de citation. On n'en est plus là. Ils doivent faire comprendre que la paix, la sécurité et la prospérité qu'a apporté l'Union européenne ne sont pas garanties à vie.
Merci beaucoup Brice Couturier. Cette fois c'est différent, disiez-vous, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site internet de France Culture. Et c'est parce que c'est différent qu'on a choisi la semaine prochaine de faire toute une série consacrée à l'Europe avant élection, inventaire avant élection. Merci beaucoup Brice. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.